Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur RCF pour Génération Geek pour vous parler de grands films d'animation japonais. On a passé 25 minutes ensemble la semaine dernière à parler de la culture japonaise et de comment cette culture japonaise est arrivée en Occident. On a parlé beaucoup de manga, on a fait quelques petits rappels sur le format, sur la périodicité, sur le style graphique également. On vous a conseillé quelques mangas ou quelques animés. Mais on ne veut pas oublier qu'au cinéma, des grands films ont largement passé les frontières du Japon. Ces grands films sont arrivés en Occident et en France, et qu'il y a des petits chefs-d'œuvre à ne pas manquer. Et on voulait prendre le temps de vous consacrer une émission, de vous raconter effectivement quelques pitchs, quelques références, en tout cas, quelques grands réalisateurs aussi, et de vous donner quelques conseils, quelques tuyaux si vous voulez vous aussi vous lancer dans l'aventure de découvrir un petit peu ces grands films. Alors bien sûr, Génération Geek ne serait pas ce qu'il est sans Marjorie, qui chaque semaine est avec nous. Et je vous avais dit que ce serait un running gag. Cette semaine, j'y prête particulièrement soin, Marjorie, ton micro est ouvert, tu peux enfin nous dire bonjour.
Ah, bonjour tout le monde.
Et tu n'es pas seule dans ce studio,
non,
il y a aussi Ludovic, et Ludovic, je vais prendre le soin aussi. Non, finalement, je vais pas le faire. Si je te laisse la parole et nous dire bonjour, bien sûr, évidemment, toi aussi.
Salut.
Alors, c'était un salut avec une énergie.
Non, mais c'est Marjorie, elle me fait peur.
D'accord, ok, je comprends. Moi aussi, ça arrive régulièrement qu'elle me fasse peur. C'est pour ça que parfois, j'oublie d'ouvrir son micro. Pardon.
Ah, je vous jute tous.
Voilà, très bien, ça commence bien cette émission. Peu importe, nous allons quand même relever nos manches. Nous allons quand même vous parler de ces grands films d'animation japonais. Il y a un nom que vous connaissez peut-être. S'il n'y en avait qu'un à retenir, ce serait sans doute celui-là, mais vous verrez qu'il y en a d'autres qui sont tout aussi talentueux et intéressants. Ce nom, c'est celui de Miyazaki, qui est effectivement Hayao Miyazaki, l'un des plus grands, ou en tout cas plus connus, réalisateurs et scénaristes de films d'animation japonais. Alors, juste pour vous donner quelques titres, on reverra un petit peu les pitchs. Le Château dans le Ciel, Porco Rosso, Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro sont sans doute effectivement des noms que vous avez déjà dû entendre et des affiches que vous avez déjà dû voir au fronton des salles de cinéma. Alors, il y a d'autres réalisateurs, évidemment, il y a d'autres films. Déjà, on aimerait vous décrire un petit peu cet univers et puis vous dire quels sont les points communs dans ces grands films. Hayao Miyazaki, il est clairement comparé au Japon à Disney, Walt Disney, parce que c'est quelqu'un de très talentueux aussi. Alors je vois mes deux compatriotes qui font des têtes absolument
la
horribles.
La boulette.
Alors lui n'aimerait pas, mais comparé à Disney, à moins
jamais.
Que tu veuilles me contredire là-dessus, Marjorie.
Alors, lui aime bien dire de ses concurrents qu'il n'aime pas du tout, que eux ressemblent à Disney. Parce que pour lui, Disney, c'est de la production à tout va, c'est du showbiz en voiture, Et c'est pas de la vraie création et c'est pas du vrai art.
Alors attention, entendons-nous bien, peu importe ce qu'il pense, et je respecte beaucoup ce monsieur, quand les films, notamment Princesse Mononoke, a commencé à faire un énorme succès en Occident, il a été comparé directement à Walt Disney en disant « c'est le Disney japonais » parce que
c'est le plus renommé.
C'est le plus renommé. Il faisait des animés qui marchaient au cinéma et qui faisaient rentrer des petits et des grands dans les salles de cinéma et que sa renommée dépassait largement les frontières de son pays. Mais aussi parce qu'il était à la manœuvre comme l'était Disney au début. C'est-à-dire que au-delà des productions qui sortent aujourd'hui de Disney, Walt Disney au début, effectivement, était à la manœuvre au dessin, à la réalisation, à la conception de l'histoire. Et il avait à cœur que ses premiers films, notamment son premier film, soient complètement, entièrement travaillé, préparé par lui et qu'il ait pu voir chacun des dessins. Hayao Miyazaki, c'est pareil, notamment sa Princesse Mononoke. La légende, entre guillemets, raconte que sur 140 000 dessins qui ont été nécessaires à la production de ce long métrage, il les a tous vus un par un et qu'il en a retouché, retravaillé 80 000, ce qui est absolument colossal. Donc c'est en ce sens-là qu'il a été comparé à Disney en Occident. Je ne dis pas pour autant que c'est quelque chose qu'il aime. En plus, je crois qu'il est relativement humble et qu'il n'a pas envie qu'on le... On est sur un piédestal.
Ah non, du tout. Il est plutôt très, très, très timide, le monsieur. Même s'il n'hésite pas, quand on lui pose des questions, à répondre de manière très franche et très honnête. Comme tout bon japonais se doit de l'être.
Alors, Miyazaki, du coup, c'est le plus connu. Est-ce qu'il y a quelques autres noms, Ludovic, qui pourraient parler aux auditeurs? Juste quelques noms de films et de réalisateurs scénaristes. On fera après le détail éventuellement.
En termes de, enfin, de noms célèbres, je vais me faire traiter, mais Akira Toriyama, par exemple, qui est le dessinateur, le mangaka de Dragon Ball et Dragon Ball Z, donc qui est ultra connu. Voilà, si je ne devais dire que celui-là.
On a aussi Isao Takahata, qui n'est pas très connu, mais alors par contre, tout le monde connaît son film. Hein. Il n'y en a qu'un seul qui est connu. Les autres ont été beaucoup primés, mais ne sont pas très reconnus mondialement. Le tombeau des Lucioles, si ça vous parle, et ben c'était lui. Voilà.
Alors, quel est le point commun dans ces films? Pourquoi est-ce que certains longs métrages comme ça arrivent à dépasser les frontières du Japon? Quel est l'élément? Parce qu'il y a quelques longs métrages qui sortent en salle de cinéma. Moi, je me rappelle une époque du film Pokémon qui était sorti. Là, on s'appuie sur un phénomène commercial qui est lié au jeu, qui est lié à la série télé, et on emmène des enfants voir un film au cinéma. Donc là, on est typiquement dans un phénomène qui, quelle que soit la qualité ou pas du film d'ailleurs, qui est, on s'appuie sur un phénomène commercial. Quand les gens vont voir Princesse Mononoke ou Porco Rosso ou Tombeau des Lucioles au cinéma, on n'arrive pas avec une base fan. C'est-à-dire qu'il faut que le film plaise en lui-même, qu'il ait une réputation parce que c'est un film de qualité, et donc on est vraiment là sur quasiment des films d'auteur en fait.
Alors ce sont des films, ils ont tous pour point commun déjà d'être plutôt très poétiques et très contemplatifs, mais surtout de parler de thèmes relativement universels comme l'enfance, l'écologie, la guerre, ça parle à tout le monde, et surtout ce sont des films aussi bien pour enfants que pour adultes, parce qu'ils sont suffisamment profonds pour que les adultes y trouvent leur compte, et ils sont suffisamment beaux et intéressants à regarder. Il y a quand même suffisamment de temps en temps d'humour ou d'action pour que les enfants ne soient pas lésés non plus. Donc c'est pour ça qu'ils rencontrent un vif succès. Mais il ne faut pas... faut nuancer. Il n'y en a quand même pas 50 qui sortent par mois dans nos salles de cinéma. C'est plutôt un ou deux par an.
Sur le dessin, on s'éloigne. Alors, on s'éloigne. On est moins dans la caricature du manga, dans le sens où on a moins de scènes avec effectivement des yeux qui sont absolument énormes, des choses qui sont un peu ubuesques, etc. On est aussi sur un style de dessin qui, même si on voit clairement la filiation avec le style manga dont on parlait la semaine dernière, c'est-à-dire des visages relativement androgynes, des lignes relativement droites, des yeux qui sont plutôt plus grands que des yeux réalistes, on est quand même sur une volonté d'approcher la réalité, en tout cas en partie, sur le style de dessin, Ludovic.
On est sur une ambiance que ce soit sonore ou visuelle, qui est plus calme, même si ça n'empêche pas qu'il y ait des scènes d'action, mais sur une ambiance nettement plus calme, nettement plus posée, et qui va moins, entre guillemets, heurter, qui va provoquer un choc de civilisation, de culture moins important, que sur les mangas classiques comme Dragon Ball Z, qui est, j'ai envie de dire, la caricature du manga japonais.
Après, il y a aussi une vraie différence entre ces films-là et les dessins animés, par exemple, de l'écurie Pixar, DreamWorks ou même Disney. Il y a plus ce côté dessin. On sait qu'il y a
on est sur un travail en deux dimensions derrière. Et il y a cette double notion de peinture pour les décors, encore une fois, et de dessin, du coup, avec des aplats de couleurs et un peu d'ombrage sur les personnages, souvent. Et une petite touche parfois d'effet numérique en plus, mais on le ressent moins. Légère. Quoi.
On ressent moins la présence d'un ordinateur derrière, quel qu'il soit. Ça fait plaisir parfois de retrouver un dessin plus proche de Blanche-Neige et les Sept Nains que du dernier Indestructible.
Il y a cette notion-là, j'ai l'impression, dans ces grands films d'artisanat, en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une production qui a l'air, en tout cas, beaucoup moins standardisée, qui est beaucoup plus un travail d'auteur, qui, avec éventuellement des défauts. Il y a quelques scènes, moi j'ai regardé il n'y a pas très longtemps La Princesse Mononoké, il y a une scène particulièrement où on voit le jeune prince qui est sur son élan rouge et qui court dans une prairie sur une colline. Et là, je me suis dit, mince, c'est Olivier Tom, quoi. C'est-à-dire que la prairie verte défile comme ça. On voit juste, encore une fois, l'élan rouge et la tête qui défile. Ça ne dure pas très très longtemps, ça dure une dizaine ou une quinzaine de secondes. Mais moi, ça m'a tout de suite fait penser à ces scènes-là. Et puis après, il y a effectivement d'autres scènes qui sont vraiment d'une grande beauté, d'une grande qualité, puis d'une mise en scène aussi particulière.
Vas-y, Ludo.
Pour revenir justement sur ce détail, le moteur aussi pourquoi Miyazaki va faire ce genre de scène n'est pas le même que dans le cas d'Olivier Tom. Où dans Olivier Tom, le but est accessoirement de montrer que le terrain, il est grand, hein. Mais surtout,
gagner du temps d'image.
Alors que là, ici, ça va plus être justement de donner un rythme particulier, de donner une ambiance particulière. Et là, on va être sur quelque chose de complètement différent et ça reste respectable.
Alors, quand on suit un petit peu les univers cinématographiques, c'est assez simple de voir les modes qui peuvent avoir trait soit à une époque, soit à une culture. Quand vous regardez un film comme Terminator, on est sur un film d'action. Mais on est sur un film d'action des années, tu me corriges, j'ai une grosse bêtise, Marjorie, 80 à peu près.
Oui, 80.
Voilà, 80. Et donc, en fait, quand on le regarde aujourd'hui par rapport à un Terminator moderne, un autre film d'action, on peut trouver une certaine lenteur dans une partie des scènes, une certaine lourdeur à la réalisation parfois, ou en tout cas un manque de péripéties, ce qui n'était pas du tout le cas à la sortie. Même quand on le regarde aujourd'hui, ça reste quand même un film qui est plutôt un bon film. Mais on est habitué à un rythme qui est beaucoup plus dense aujourd'hui au cinéma, beaucoup plus dense sur les scènes d'action, en tout cas au cinéma occidental. Alors, parfois avec des gros défauts, hein. Si vous prenez un film comme Transformers, vous avez de l'action à tout va, ça ne s'arrête jamais, mais alors l'histoire est tellement fade que ça n'a aucun intérêt, surtout sur les suites des premiers Transformers, j'entends bien ça. Quand on regarde effectivement un film d'animation japonais, est-ce qu'il y a effectivement des choses comme ça qui sont un peu transversales, ou est-ce qu'on a des choses qui sont liées à une époque, qui sont liées à une façon de filmer, parce que regarder un film de Miyazaki, il ne faut pas s'attendre à un film d'action pure tout le temps. Il y a forcément des passages qui sont moins lents. C'est pas non plus du cinéma français, avec effectivement peut-être quelque chose de plus centré sur les personnages et sur la psychologie. Enfin voilà, il y a forcément des éléments qui sont liés à la fois à l'époque, à la fois à la culture. Alors quels sont ces éléments qu'on pourrait référencer ?
Alors, je sais pas pour les éléments liés à l'époque. Je te laisserai peut-être en parler, Ludo, parce que
ça
fait des grands yeux quand il en a parlé dans sa question. Il y a 6 minutes déjà.
Et 6 minutes quand j'ai démarré ma question, voilà, c'est ça.
Déjà, c'est pas mal que tu te rappelles de la question.
Voilà, c'est ça. Par contre, c'est vrai que de tout temps, les films japonais ont tous eu des points communs. Par contre, et quand on en voit un, on sait que c'en est un. Enfin, on sait que le film, il est pas américain. Il est forcément oriental. Enfin, typé japonais. À savoir que il y a une rapidité. Il y a une contemplation, il y a surtout une manière de parler des choses. C'est très difficile à expliquer. C'est plus du ressenti niveau spectateur. Moi, je sais que quand je regarde un film d'animation japonais, si vous ne me dites pas le nom du réalisateur, je vais vous dire qu'il est japonais, forcément. Parce que il y a un truc, une magie, un petit...
Je dirais que dans l'action, déjà, il y a une forme de fulgurance. C'est-à-dire que l'action tournée à l'occidental, il y a une narration dans l'action. On voit quand elle va commencer, on voit quand elle commence, on voit son déroulé, on voit quand elle se termine. J'ai l'impression que l'action au Japon, elle démarre, on ne s'y attend pas forcément. On ne peut pas en prévoir la durée ni la fin. C'est très caricatural ce que je dis, mais presque un coup de sabre qu'on dégaine et claque. Mais il y a ce côté-là, j'ai l'impression, dans certaines scènes. Moi, j'ai vu un film qui n'est pas un film d'animation, mais qui est un film japonais, qui est Hanabi, où effectivement, il y a des scènes d'action qui sont très violentes, mais qui démarrent de manière très, très, très fulgurante, et ce n'est pas habituel. Et quelques temps après, on va avoir des scènes de contemplation très lente, poétique, mais voilà, qui dénote.
C'est très réaliste, hein. Vous vous battez avec quelqu'un. Une fois que l'adrénaline est retombée, bah vous êtes tout calme. Vous êtes tout mou, c'est le repos.
Il y a une pudeur aussi, j'ai l'impression, dans les films. C'est-à-dire qu'on va parfois moins loin, enfin, moi c'est une impression que j'ai, hein. Moins loin dans les... Dans non pas la psychologie des personnages, mais dans ce que les personnages démontrent de leur ressenti. Alors soit ils le font à l'extrême, ils vont pleurer, etc., machin, quelque chose de très extrême et parfois presque...
Mais on entend rarement des « je t'aime » et des grandes déclarations d'amour.
Mais c'est ça, il y a une forme de pudeur parfois assez qu'on ne retrouve pas. Je ne sais pas, Ludo, comment tu peux compléter ça.
C'est plus justement pour revenir sur la notion d'action, où justement, moi, quelque chose qui me marquait, alors, notamment chez Miyazaki, où justement, en fait, on va voir une scène d'action... pas de musique spécialement, justement en comparaison par exemple au grand blockbuster américain avec de la musique à fond les caissons pendant 10 minutes pendant la scène d'action qui termine pas alors que c'est censé aller super vite. Alors que là, en fait, effectivement, on va avoir du calme, on va avoir musicalement, enfin d'un point de vue sonore, on va avoir beaucoup de calme et avoir uniquement du son pour les choses importantes qui vont les vraiment justement, voilà, les bruits de sabre. D'ailleurs, c'est souvent des bruits de sabre, même quand c'est des coups de feu.
Il n'y a pas de aïe, par contre. Il n'y a jamais de aïe. Ça fait... les personnages n'ont jamais mal. Ou en tout cas, ils ne le disent, quand ils ont mal.
Ils font gémissent. Pas... Ah ils gémissent, ils encaissent.
Ils font... Ah, ça fait mal, ça.
Donc voilà, c'est quelques différences qu'on peut percevoir, parce que je pense, dans l'ensemble hein, de ces films et du cinéma japonais, sans doute, en général. On fait une petite pause musicale. On va vous donner quelques recommandations, quelques conseils voilà, de films à regarder, avec évidemment une partie de l'histoire pour que vous puissiez voilà, choisir un petit peu quand même une thématique qui vous intéresse. On se retrouve tout de suite. Voilà, de retour dans Génération Geek. On va travailler les choix musicaux, on vous le promet. Là, j'avoue qu'on était géographiquement un petit peu loin du thème d'origine.
Ah oui, parce que l'Inde et le Japon, c'est pas totalement des voisins.
Le même continent. Voilà, mais voilà, on reste dans cette thématique.
Le Japon, c'est une île, hein. C'est pas un continent.
C'est ça, et puis c'est pas tout à fait la porte à côté, c'est pas la même culture. Mais bon, voilà, on avait ça sous la main. Il y avait des consonances asiatiques qui nous plaisaient bien. Et voilà, c'était pas exactement ce qu'on voulait vous passer. Mais on vous passera des bandes annonces, voilà.
Ça, mesdames et messieurs, c'est se rattraper d'une boulette. Voilà,
on fait bien ce qu'on peut avec ce qu'on a. Vos micros sont allumés. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. N'en demandez pas plus. Par contre, vous pouvez me raconter quelques-uns des films que vous conseillez à nos auditeurs. Les dates de sortie, le réalisateur, le titre, le pitch du film, tout ça. Je vous laisse y aller. Moi, je vais aller préparer les musiques pour la semaine prochaine.
Alors, par où qu'on commence ? Eh ben, moi, j'ai un très bon souvenir de Porco Rosso. Hein, t'aimes bien aussi, Ludo, hein ? T'es d'accord avec moi ? Bah, pour une fois, tu vois, j'ai pas des goûts bizarres, hein. Des gens qui aiment bien aussi ce que j'aime, hein. Donc, Porco Rosso, c'est...
Porco Rosso, si je dis pas de bêtises, c'est Babe dans un avion, c'est ça ?
Alors, c'est l'histoire d'un homme qui a été transformé en cochon, ce n'est pas de sa faute.
Il était pas censé aller choisir les musiques, lui.
Babe si, non si, plus, si. C'est pas de sa faute. Si.
Dis donc, va boire un café, nous on s'occupe de l'émission, ok ? Alors, le pitch est très rapide. Dans l'entre-deux-guerres, quelque part en Italie, le pilote Marco, aventurier solitaire et cochon de son état, vit dans le repère qu'il a établi sur une île désertique de l'Adriatique. Et à bord de son splendide hydravion rouge, il vient en aide aux personnes en difficulté. Ce qui me fait penser que les avions, Miyazaki, il aime bien. N'est-ce pas, Ludo ?
Ah oui, il aime beaucoup, notamment, alors, on peut...
Alors ça, c'est quand tu as préparé un truc bien spécifique, que tu as un renseignement que tu veux absolument placer dans l'émission, qu'on te tend une perche, mais d'une énormité absolument scandaleuse, c'est plus que téléphoner, et que là tu dis, mince, comment maintenant je me ressors de ça? Dis-moi, qu'est-ce qui faisait le papa de Miyazaki, mon cher Ludovic? Est-ce qu'il était comme Gepetto? Est-ce qu'il fabriquait avec des petits morceaux de bois, des petits personnages? Ou est-ce qu'il avait une autre activité professionnelle artisanale?
Ah, effectivement, il était directeur d'une usine qui fabriquait les gouvernes pour les Zéros. Les Zéros qui étaient les avions de chasse de l'armée japonaise, voilà. Notamment pendant la Seconde Guerre mondiale.
Eh bien, merci de nous avoir informé de cette notion particulière pour notre gouverne. C'était assez intéressant.
Merci de m'avoir sauvé.
Princesse Mononoke, 1997, c'est le film qui a vraiment fait connaître Miyazaki en Occident. Ludovic, je te rends la balle, je te passe la patate chaude. Tu l'as vu, ce film?
Oui, je l'ai vu.
Il y a longtemps.
Je l'ai bien aimé. Effectivement, je pense que c'est Marjorie qui saurait le mieux nous en parler.
Eh bien, on va l'écouter dans ce cas-là.
Et je l'ai vu qu'une seule fois et j'avais 10 ans. Mais enfin.
Bien.
Alors, Princesse Mononoke, non mais j'y vais. Vous m'avez donné un boulot, je l'accomplirai du mieux possible, messieurs, dames. Alors, au 15e siècle,
vous voyez,
du lent.
C'est comme les films d'animation japonais, c'est-à-dire que c'est contemplatif et en même temps, quand l'action démarre, c'est fulgurant et poétique.
Alors, je dirais qu'au 15e siècle, la Princesse Mononoke, ça se passe durant l'ère Muromachi. La forêt japonaise, jadis protégée par des animaux géants, se dépeuple à cause de l'homme. Et oui, l'homme consomme beaucoup trop de bois. Un sanglier transformé en démon dévastateur en sort et attaque le village d'Ashitaka, futur chef du clan Emishi. Et du coup, il va se passer des bricoles pas nettes dans cette forêt.
Eh bien oui, il est infecté, le pauvre Ashitaka, et donc il va essayer de sauver sa vie en allant effectivement retrouver les traces du sanglier, son point d'origine. Il va rencontrer l'esprit de la forêt, il va rencontrer la princesse Mononoke, il va rencontrer... effectivement la dame qui s'occupe aussi des forges et du minerai. Si vous aimez la thématique un peu écologique que vous retrouvez dans Le Seigneur des Anneaux avec cette, et dans Tolkien en général, avec l'affrontement entre l'industrie et la nature, Princesse Mononoke, on est exactement là-dessus, dans ce conflit humain entre l'homme et la nature, et c'est voilà, c'est assez bien traité. Il y a des petites choses qui sont très originales, comme effectivement la femme, la dame, qui est la reine des forges et qui s'occupe du minerai, qui est une femme. Et donc ça, effectivement, on est sur un thème qui est cher aussi à Miyazaki, cette capacité à mettre en avant les femmes, et pas que dans le rôle, justement, voilà, du Japon féodal ou dans un rôle qui pourrait être mineur, mais dans un rôle majeur, justement. Typiquement, les ouvrières de ces forges, ce sont d'anciennes prostituées que la dame du village a été chercher en disant « Voilà, viens travailler avec moi à la forge, ce sera plus intéressant que ton métier actuel. » Mais leur relation avec les hommes est tout à fait intéressante et pas du tout malsaine, surtout dans le film, une vraie évolution à ce niveau-là. Et voilà, donc ce rapport à la nature, ce rapport au monde homme-femme aussi, est assez intéressant. Voilà. Et au sacrifice, parce que voilà, il y a un côté très japonais dans le sacrifice pour le bien de tous. Mais finalement, voilà, ça se termine bien dans La Princesse Mononoke.
Ok, oui. Miyazaki adore aussi traiter la nature. Enfin, de toute façon, dans tous ses films, la nature a une place prépondérante.
En parlant de filles, qui est Chihiro, Ludovic?
Alors, Chihiro, c'est une petite fille capricieuse qui s'apprête à déménager avec ses parents et qui refuse justement ce déménagement. Et par le biais d'une course-poursuite qui nous fait penser un petit peu à Alice au Pays des Merveilles, Alice qui court après le lapin. En fait, les parents de la petite Chihiro vont se retrouver transformés en cochons. Et pour Chihiro, va devoir essayer de les sauver, tenter de leur porter secours.
Si
et
j'ai bonne mémoire, c'est
univers.
Parce qu'ils ont mangé la soupe de la sorcière qui se retrouve transformée en cochon. Il n'y a pas un truc comme ça?
C'est pas plutôt une question de...
Ils étaient
d'or.
Trop gourmands.
Oui.
Trop gourmands, je crois, les parents. Il y avait un truc comme ça, ils sont transformés en cochons. Il y a une espèce de parallèle avec les contes qu'on peut avoir, les contes de Perrault ou autres sur le...
Voilà. Justement, en fait, on peut voir notamment... Alors c'est un bon exemple, c'est que, en fait, Miyazaki a... beaucoup tiré son inspiration, notamment de Lewis Carroll et d'Alice au Pays des Merveilles, en particulier, et notamment aussi de Saint-Exupéry et du Petit Prince. C'est des thèmes qu'on retrouve un petit peu chez Miyazaki assez régulièrement.
Et là, voilà, on est effectivement, encore une fois, dans le secours qui doit être porté par l'héroïne principale, qu'il est une petite fille au monde qui l'entoure, et comment est-ce qu'elle peut effectivement essayer de sauver tout ça. Alors après, moi, c'est un film que j'ai pas vu, pour le coup. Et c'est en 2001, le voyage de Chihiro. Pareil, c'est un énorme succès, ça. Voilà, donc,
ça a beaucoup marché.
Toujours de chez Miyazaki, il y en a deux autres qui sont avec des châteaux. Il y en a un, c'est le premier, Le Château dans le Ciel, en 1986, et en 2004, Le Château ambulant. Mais les deux histoires parlent de châteaux dans le titre, mais pourtant, on ne retrouve pas forcément ça dans le contenu.
Et non, parce que Le Château dans le Ciel de 1986 parle de Chita, qui est retenue prisonnière par des pirates dans un dirigeable.
Chita, la copine de Tarzan. Pardon.
Ah. Et du coup, elle va être sauvée par Pazu, un jeune pilote d'avion travaillant dans une cité minière.
Mais dis-moi, il n'y a pas un rapport entre Miyazaki et les avions, Ludovic ? Vas-y, continue, continue.
Et du coup, elle lui avoue qu'elle est la descendante des souverains de Laputa, la cité mythique située dans les airs. Et si je vous parle ensuite du château ambulant, sorti en 2004, là, c'est l'héroïne, c'est Sophie, qui travaille dans la boutique de chapelier que tenait son père avant de mourir. Et elle va rencontrer le séduisant magicien Oru. Et se méprenant sur leur relation, voilà, il y a une sorcière qui va jeter un très vilain sort sur Sophie. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler.
Chapelier, on ne peut que penser à...
Bah, Alice au Pays des Merveilles.
Bien sûr, Alice.
Mais en fait, une sorcière qui jette un sort sur une petite fille. Et il aime vraiment pas Walt Disney ?
Non, du tout. Bizarrement.
Pourquoi ?
On avait parlé en début.
La peur du plagiat ou...
On avait parlé en début d'émission d'un autre réalisateur, Isao Takahata. Et tu as parlé d'un film, Le Tombeau des Lucioles. Je pense, moi. Peut-être que c'est le film qui séduira le public le plus âgé, en tout cas le plus large. Alors, ce n'est pas un film tout à fait joyeux, ce n'est pas vraiment une comédie. Mais pour le coup, c'est peut-être un film qui peut parler à plus de gens. Je te laisse le pitcher et effectivement nous raconter un petit peu l'intérêt de ce film-là.
Alors, ce n'est peut-être pas le film qu'il est bon de faire regarder à vos jeunes enfants. Mais par contre, à vos grands adolescents, pourquoi pas, à eux de voir s'ils veulent. Alors, tout se passe au Japon, l'été 1945. Et après le bombardement de Kobe, Seita, un adolescent de 14 ans et sa petite sœur de 4 ans, Setsuko, vont devenir orphelins, donc vont perdre leur maman. Et ils vont partir s'installer chez leur tante à quelques dizaines de kilomètres de leur maison. Et bon, la tante n'est pas vraiment très très accueillante. Elle leur fait bien comprendre qu'ils sont une gêne pour eux, surtout parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils sont très jeunes. Seita va prendre sa petite sœur sous le bras et va décider de vivre seule avec elle. Donc ils se réfugient dans un bunker désaffecté en pleine campagne. Et pendant un temps en tout cas, ils vont vivre très heureux, surtout par la présence de milliers de lucioles qu'il y a dans les champs alentours et qu'ils prennent avec eux dans leur chambre et sous leur moustiquaire pour se faire de la lumière. Mais nous sommes à l'été 45 et bientôt, ils ne vont plus avoir beaucoup, beaucoup de nourriture.
Voilà, mais c'est un film qui parle notamment de la guerre. Voilà.
Notamment de la guerre, des responsabilités de l'enfance, du grand frère, l'abandon des parents, le fait d'être orphelin, le manque de nourriture, tout ça.
Mais c'est sans doute voilà, effectivement le film qui est peut-être le plus poétique, mais le plus sombre aussi, mais qui parlera, à mon avis, à un public assez large. Il y a beaucoup de fans d'histoire sur RCF. Il y a des émissions consacrées, effectivement, beaucoup à l'histoire. Voilà, ce film-là, je pense que vous pouvez y aller sans trop de crainte. Vous ne verrez pas effectivement des yeux énormes et une culture qui est proche de Dragon Ball ou d'Olivier Hatton ou d'autres héros, mais quelque chose de bien plus profond et bien plus poétique.
Il est magnifique et je peux vous assurer qu'à la fin de ce film, vous tomberez amoureux de Setsuko.
Très bien. Et merci en tout cas pour ces découvertes, Ludo et Marjorie. Voilà, si vous avez aimé ces films-là, si vous avez des petites choses à nous dire, des petites choses à nous conseiller, n'hésitez pas à nous retrouver sur la page Facebook Génération Geek dans les commentaires, allez-y, ou par message privé, posez-nous toutes les questions que vous voulez. Génération avec un S, Geek avec un S. Bien sûr, par mail, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous retrouver aussi à la chaîne YouTube sur YouTube, évidemment. Génération Geek. À chaque fois, vous mettez un S à Génération et un Geek. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci.